De longs fils de cire entortillés, présentation du livre Filulicatoaxylène Chiliolucé Batsu, consacré aux cires de deuil et réalisé dans le cadre d'une résidence artistique aux Aldudes en 2023. Voici de larges extraits de l'intervention de Marie Campistron et Aglaé Miguel, enregistrée au Musée Basque de Bayonne le 24 octobre 2024. Marie Campistron et Aglaé Miguel.
Voilà, donc nous, notre passé, c'est, on n'est pas des scientifiques, on n'est pas des ethnologues. Donc ce qu'on va vous exposer ce soir, ce n'est pas du tout l'histoire des cires de deuil. Il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que nous. Voilà, on est des passionnés, mais notre positionnement, il est vraiment en tant qu'artiste. Moi, j'ai aussi cette formation de graphiste. C'est vraiment... c'est ça qu'on va vous expliquer un petit peu, tout le contexte de A à Z de ce projet qu'on aime énormément.
Donc la première année, les artistes étaient Atelier Bingo, donc ils sont basés à Saint-Brieuc. Eux, ils ont travaillé sur les femmes et la fête, et la place qu'ont eu les femmes dans la fête et sur la place publique, à travers différentes générations. Après, c'est toujours aussi un prétexte pour parler de la place de la langue, de la culture, de féminisme, parce qu'en fait, c'est ça les thèmes qui nous tiennent à cœur. Donc voilà, donc ça c'était en 2021 avec Adèle et Maxime. C'est un livre qu'on vient de réimprimer en avril. Voilà. La deuxième année c'était sur la montagne et c'était avec Magali Bruder. Donc on a parlé de contrebande, de randonnée avec des bergères, des bergers, des personnes qui font du trail. En fait, différentes personnes qui sont présentes dans la montagne, que ce soit via leur loisir ou leur travail. Ça, c'est le livre précédent. Hop. Donc, c'était ça. Donc, c'était Mendia Deitzenaute, et c'était le titre, on l'avait pris d'une chanson de Elorie Lambert. Donc, qui veut dire On m'appelle Montagne. Ça, c'était en 2022. Cette année, donc en 2023, il y a eu le livre avec Aglaé, mais cette année, on est en train là d'imprimer le livre d'Amélie Fontaine, et le sujet, c'est la transmission dans les fermes, parce que c'était le thème, la transmission, c'était le thème des portes ouvertes de la vallée des Aldudes, et donc on a trouvé ce thème intéressant, et on a décidé de préciser, de s'intéresser précisément ensuite à la transmission dans les fermes, donc les hors-cadres familiales, comment ça se passe quand il n'y a pas de reprise. Et bon, après, ça part sur d'autres sujets, le fait de s'occuper des aînés, quand on reprend une ferme, de vivre à plusieurs générations, en tout cas à une époque, un peu moins maintenant, mais sous le même toit, et ben du coup, quels échanges ça favorise aussi d'une génération à l'autre, donc, particulièrement petits-enfants, grands-parents, par exemple. Et on essaie toujours, évidemment, d'avoir un point de vue féministe sur la question, et critique aussi, et de pas être toujours sur du positif, comme si tout était parfait. Voilà. Et donc là, c'est un livre qui est en cours d'impression. Donc Amélie vient de partir ce matin, mais on a travaillé ensemble, et puis je vais finir l'impression cette semaine. Voilà. Et donc, je laisse la parole à Aglaé.
En fait, on vous montrait un peu en parallèle un peu donc ce que Marie elle faisait, et puis moi depuis 2020 je m'intéresse aux cires de deuil, et du coup comment ensuite on va vous remettre un petit peu le cadre de la résidence et l'invitation qui a été faite, mais j'avais oublié de préciser, je voulais trop entamer la conf en disant vous allez aussi voir une super belle amitié qui s'est construite aussi dans ce projet, parce que c'est très intense de monter, de vivre ensemble, de faire un projet aussi ambitieux. Et donc oui, pour resituer, moi j'habitais dans le Val d'Azun pour une autre résidence sur une autre thématique autour du pastoralisme, tout ça. Mais bon, il y a eu le Covid qui est arrivé pendant que j'habitais là-bas, avec donc un rapport à la mort très particulier, comme on le sait tous et tout. Et puis le premier jour du déconfinement, je suis allée au musée de Lourdes parce que j'adore tout ce qui est écomusée et artisanat et tout ça. Et parmi tous les objets merveilleux qu'ils ont, je suis tombée sur ces bougies. Donc juste, je pense que tout le monde le sait, mais il faut redire un petit peu les évidences. Ce sont des bougies funéraires qui ont plein de traditions différentes. Il n'y a pas forcément une vérité, mais en général, elles étaient quand même vraiment allumées aux enterrements, et puis souvent tous les dimanches aux messes. Mais il y avait aussi un milliard de petites histoires dans chaque vallée, de petites traditions particulières, propres, voilà. Et elles ont aussi des noms par dizaines, en fonction des vallées, Tourcle, voilà, Bayard, Isayola ici, mais Paria et tout ça. Et je suis un peu tombée en amour de cet objet parce qu'il est très fascinant, parce que la cire d'abeille avec des camaïeux de jaune, vraiment. Et puis en même temps, ce qui était assez fort, c'était le fait de les découvrir au moment d'une épidémie. Et ça pouvait également être utilisé en temps de guerre et d'épidémie pour protéger les villes. Ils faisaient une bougie du périmètre. La circonférence de la ville, de la même longueur, qui brûlait. Donc notamment, il y a pas mal de références, je crois que c'est au 15e siècle, à Notre-Dame de Paris, où ils en avaient fait une très grande. J'ai pas trouvé d'image de ça, faudrait que je continue, mais voilà, c'est assez fascinant, le rapport d'échelle entre le domestique et le beaucoup plus collectif. Et puis ce qui était assez chouette, c'est tout de suite, donc je suis allée un petit peu diguer un peu plus sur internet. Bien sûr, il y a un petit livre qui est très connu, qui est de la cofondatrice du musée de Lourdes, justement, qui avait commencé ce récollement de ces bougies, qui est Margalide Le Bon Didier, et elle a le petit fascicule qui est la Bible de la cire de deuil. Mais en fait, sur internet, tout de suite, c'est des choses sur lesquelles on trouve pas grand chose, et ça, c'est assez attirant aussi, de savoir que justement, avec cette résidence, c'est en allant rencontrer les gens, il y a encore une mémoire un petit peu vivante de ça. Et du coup, bah voilà, c'était se baigner dans une iconographie que moi je trouve absolument incroyable, en plus de ces objets. Et puis un sujet du funéraire que j'avais jamais traité dans ma pratique. Je peux peut-être juste dire, donc moi je suis graphiste vraiment de formation. J'ai fait les arts décoratifs de Paris, mais j'ai pas fait les beaux-arts en art. Donc je fais des petits pas de côté, mais on voit dans un livre comme ça que je retourne quand même beaucoup à cette casquette-là. Et voilà. Du coup, c'était vraiment voilà de lire beaucoup de choses, et le funéraire. Moi, j'avais travaillé sur l'artisanat, sur l'écologie, beaucoup le textile. Vous verrez, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, qui fait que j'habite maintenant dans la Creuse. Mais le sujet funéraire en tant que pratique artistique, et nous de nous positionner pour amener ce sujet dans la société, pour le traiter et ouvrir un débat là-dessus, me paraît vraiment vraiment essentiel de plein de manières différentes. Et il y a plein de gens qui partagent cette vision-là, qu'on a rencontré au fur et à mesure de ce projet. Donc c'est un réel. Et en fait, très tôt, je vais toquer un peu à toutes les archives du coin. Mais avec le Covid, voilà, sincèrement, tout le monde, c'était les archives départementales, tout ça, tout était fermé, quoi. Sauf le musée basque de Bayonne, qui toujours a répondu hyper positivement et m'avait accueilli, voilà, dans des périodes où ailleurs c'était très compliqué. Et donc j'ai pu découvrir les bougies qu'ils ont en collection. Il y en a des très très belles aussi dans les salles, bon, j'ai pas pu mettre la photo ici, mais on voit tout de suite aussi la problématique de travailler avec, enfin de conserver un matériau vivant, et la cire, c'est un des grands thèmes qui traverse ce livre, qui t'a beaucoup emporté dans les rencontres que t'as mis en place, quoi. Donc on voit qu'elles sont plus ou moins craquelées et tout, et je fais exprès de mettre des petites images que vous retrouverez dans l'édition, qu'on verra qui sont traitées très, très différemment, notamment celle à droite. Et aussi, bah, très rapidement, on entend parler de la ciergerie des bénédictines, qui est à l'abbaye de Belloc, et de sœur Françoise, qui tient cette ciergerie et qui est un petit peu la dernière artisane du Pays Basque Nord à filer la cire de manière artisanale. Et ça fait donc 4 ans que je toque à sa porte dès que je suis de passage maintenant. Et on s'entend très bien, c'est quelqu'un de très très généreux. Et voilà, qui est bien sûr interviewé dans le livre. Et après, bah, parfois, ça, bien sûr, ça sort du Pays Basque, hein. Moi, j'étais en Bigorre. Ça, c'est au musée Salis, de Bagnères de Bigorre. Voilà, on voit les objets, les filières, et toujours les bougies. Donc, dans cette partie-là, c'est vraiment des grands blocs. Voilà, des pavés que moi, je trouve très, très beaux.
Et puis ça, c'est la machine qui sert à les fabriquer.
Oui, voilà, exactement. C'est la machine. Ça, c'était un très beau... Très beau hasard de découvrir ça avec une amie. En fait, tout le monde, peut-être ce soir, vous allez me donner des petits « Ah, faudrait que tu ailles toquer à quelques... » Et à chaque fois, bah, j'y vais, hein, je lis, je découvre des choses. Et là, on ne savait pas qu'on trouverait ça, donc c'était vraiment un plaisir. Et là, je vais juste vous montrer un petit peu, mais le but, c'est pas de s'étendre là-dessus, mais c'est vous montrer que moi, j'essayais vraiment de travailler avec cette matière texte iconographique et et voilà, c'est un fil de cire, donc aller aussi peut-être un petit peu vers le textile et des pièces vraiment voilà, contemporaines, des interprétations. Donc j'avais travaillé avec des gros blocs de cire de fond de cuve de chez un cirier et tout ça, et c'était une résidence, deux temps de résidence au Bel Ordinaire à côté de Pau. Et voilà, bon, je trouve ça toujours assez, même pour moi, c'est joli de voir que c'est des pistes, par exemple, qui ont pas du tout abouti, celles de gauche, qui sont autour de peut-être travailler ce fil de cire autour d'objets domestiques, justement, en détournant un peu l'argis aïolac comme support. C'est quelque chose que j'ai complètement abandonné, hein, tout à fait. Par contre, les dentelles, ça, j'ai une fixette assez monumentale, et c'est là-dessus que je vais continuer de travailler. Puis voilà, là j'avais travaillé des lettres en métal. Alors oui, tu m'as entendu le dire 50 000 fois. En fait, j'ai une expression que j'adore dire, c'est que je travaille avec une trinité de matériaux. Je suis très fière d'avoir trouvé cette petite formulation. C'est que je travaille avec la cire d'abeille, avec du textile. Alors le plus souvent blanc, mais dans les archives parfois c'est du textile noir. Donc voilà, je suis pas sectaire, mais en général ça va plus sur du coton, ça pourrait être du lin. Et puis le métal qui du coup est utilisé dans cet objet, la filière qui façonne. Et en fait, ils sont tellement complémentaires. Ces trois matériaux, ils cohabitent tellement bien entre le froid, du métal, voilà, toute la chaleur de la cire. Et j'aime bien cette photo à droite, hein, c'est que bon, parfois ça se passe pas du tout comme on a prévu, quoi. Et la cire est vivante et elle collabore pas toujours comme on le souhaite. Et à chaque fois que je rencontre des artisans qui travaillent, que ce soit Sœur Françoise ou le cirier chez qui j'étais allée en prendre, c'est des gens qui ont un rapport un peu de haine-amour quand même avec ce matériau, parce que c'est vraiment un processus extrêmement long à mettre en place de faire la cire. Et voilà, de travailler avec la lumière et le métal, ça c'est des pistes un petit peu de textile. Et l'idée c'est d'aller vers des pistes de textile inflammable pour amener aussi du rituel dans ces pièces. Voilà, et en travaillant aussi avec la projection en vidéoprojecteur aussi, je trouve ça assez chouette en soi. Voilà, je traite ça dans les années 2020-2024, et le fait que ça fasse un traitement RVB, c'est-à-dire rouge, vert, bleu, quand je travaille sur le métal, bah on a ces couleurs un peu anachroniques qui viennent sur ces images noir et blanc d'archives. Il se passe des choses hyper intéressantes. Et là, c'est un peu des pistes donc de dentelle toujours qui ont un fort pouvoir plastique, je pense. Et ça, c'était une installation, j'ai pas de bonne photo, mais qui était sur la thématique de la veillée à Marseille. Donc voilà, pendant 2 ans, quelque chose comme ça, je travaille moi sur ce sujet avec une fixette, voilà, une lubie, tous mes amis qui... On avait des amis en commun avec Marie. Donc... Ça faisait parler un petit peu. Bon, bah, Glaé, maintenant, elle est dentelle, funéraire et cire de deuil. Et toi, tu en as entendu parler?
Oui, en fait, du coup, à chaque fois, les résidences, elles se font un peu de façon organique, via des conversations. En tout cas, les deux premières, c'était vraiment de la conversation. Et quand je réfléchissais à l'année... Enfin, dès qu'il y en a une qui est finie, je réfléchis à celle d'après. J'allais boire des coups avec des amis et des amis d'Aglaé, donc, et je savais qu'elle travaillait sur ça, et donc on a parlé, parce que c'est un objet que moi aussi, via les écomusées, je connaissais. Et donc, j'ai proposé à Aglaé vu qu'elle avait beaucoup de recherches et que j'avais l'impression qu'il y avait et la partie archive et la partie création, de peut-être que c'était l'occasion de coucher trois ans de recherche sur papier, au moins la partie recherche, et après de pouvoir continuer sur plus la création. Quand je propose une résidence, c'est toujours une carte blanche. La contrainte, c'est que la langue principale, ce soit l'euskara. Il y a toujours une traduction qui est faite par Shanaire, et donc il propose une traduction un peu plus synthétique et assez poétique, et qui garde la façon de parler et du coup l'euskalki, donc le basque propre à chaque région ou à chaque village, donc il garde la façon de parler de la personne. Et donc voilà. Donc si l'interview et l'entretien est en français, on garde en français, on traduit en basque. Mais la plupart étaient en basque. Voilà, il n'y a pas vraiment d'autres attentes. On reste sur deux petites. Il faut rester sur les techniques, sur les limites de la technique d'impression. Et puis on essaie d'avoir une petite ligne éditoriale sur la couverture. Mais bon, ça reste très 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 ouvert. Voilà, donc on a décidé de travailler ensemble sur cette résidence. Et donc on a passé cinq jours ensemble, une semaine ensemble en avril. En immersion.
Une semaine, parce qu'on avait prévu un programme vraiment, on a loupé quelques repas, parce que justement quand tu disais qu'on étendait un peu le territoire, bon parfois on a fait 4 heures de route aller, 4 heures retour peut-être pour Amesqueta, non
Ouais, 3 heures.
3
ouais.
heures peut-être. Mais voilà, on avait un bon rythme soutenu. Ouais.
On a quand même fait Nafarroaren Eguna, parce que ça fait partie de la culture, et que le but quand on a des personnes en résidence, c'est aussi de pas que travailler, mais aussi de rencontrer des gens, de s'immerger dans la culture, d'apprendre des mots, et de voir aussi là, tout ce qui est vivant dans ça.
Oui, du coup, Marie, elle arrive vraiment avec ce cadre en or, et moi, j'ai besoin de cadre aussi, et ça, c'était super tout le long. Donc, même si c'est une carte blanche, et c'était à moi de vraiment trouver l'axe que j'allais prendre, voilà, c'est autour de ces entretiens qu'elle décide, en bien sûr en me consultant, mais c'est elle aussi qui connaît tous les gens et ce qui va te paraître aussi le plus pertinent. Et donc là, c'était 8 entretiens, un livre en... Tu veux peut-être expliquer ce que c'est la rhizographie, c'est assez important.
Oui. La rhizographie, c'est une technique d'impression entre la sérigraphie et la photocopie. Ça permet de... en gros, ça permet beaucoup l'auto-édition. C'est un outil parfait pour la micro-édition parce qu'il prend peu de place et donc on peut le stocker facilement. Et ça permet de tout faire de A à Z, donc de pouvoir avoir les fichiers, d'imprimer soi-même, de contrôler l'impression, de jouer sur l'esthétique et puis après de faire la reliure. Voilà.
Et surtout, c'est imprimer une couleur à la fois. Et du coup, si vous avez des doutes ou des questions à la fin, et surtout sur... Alors, en plus, quand tu montrais les images, toujours, je disais à tout le monde, moi, j'arrivais après deux résidences, que ce soit à Magali Bruyder ou Atelier Bingo, avec mes 15 couleurs, c'était hyper sexy. Moi, j'arrivais, bim, le sujet de la mort, avec une iconographie. Bon, je peux pas me défaire de cette iconographie. Et donc, on a fait d'ailleurs le choix de quatre couleurs qu'on a utilisées. On a fait notre propre mélange de jaune pour qu'il soit plus cire. Parce qu'il y a une sorte de gamme de couleurs préfaites, c'est une technique japonaise. Après, on a pris un bleu qui est extrêmement beau, qui est très foncé, et puis un gris, on n'a pas fait de noir, et on avait du rose fluo parce que ça permet des couleurs fluo. Mais il faut savoir que c'est quand même la technique la plus écologique parce qu'à froid. Mmh. Et en fait, le rose, il est anecdotique, c'est pour toutes les images de portrait, voilà, en quadrille, oui, en trichromie du coup, pour amener la couleur chair et tout ça. Et justement, on a fait beaucoup de tests d'impression, mais notamment, en plus, quand on traite du sujet funéraire, il ne faut pas se louper sur les gens, ils avaient l'air un peu trop... Et comme on n'avait pas de noir et tout ça, c'était un petit peu...
Et on a aussi parlé du coup de la cire, de l'encaustique. On a interviewé ma grand-mère, qui a une passion pour l'encaustique assez prononcée. Donc pourquoi est-ce que c'est important que ça brille? Pourquoi est-ce que c'est important que ça fasse propre? De l'odeur, de l'aspect aussi sensoriel. Et c'est grâce à elle qu'on a trouvé le titre, parce que du coup, elle nous a quand même dit que jusqu'à ses 15 ans, elle se rappelle avoir vu cet objet en utilisation à l'église du Repel, de la façon dont c'était rangé. Donc, selon les endroits, donc, par exemple, à Repel, c'était dans des petits paniers. Chaque personne, il y avait dans le fond de l'église des casiers qui fermaient à clé. Donc, c'est quand même une certaine valeur, parce que je pense qu'à l'époque, on fermait pas grand chose à clé. Et donc, chaque femme allait ranger son petit panier avec sa cire. Et Michaela Unschein lui a généreusement offert un pot d'encaustique qu'elle a validé. Et donc, elle nous a parlé de ce rapport-là à la cire. Donc ça aussi, c'était intéressant.
Et même pour ajouter, en fait, il y a tout un rapport textile très très fort. C'est qu'on lit qu'ils étaient posés sur des petites serviettes aussi pour protéger le sol des taches. D'ailleurs, il y a des prêtres qui disent « Non, j'ai arrêté parce que mon parquet était trop taché à cause de cet objet. » Ou il y a des rubans parce que, comme on le disait, les formes, elles sont un peu propres à l'artisan ou l'artisane qui était du coin. Donc forcément, il y a des petits subterfuges pour les séparer. Et aussi, il y a tout ce rapport lié, comme tu le disais, au féminisme et tout ça. Mais vous le savez, voilà, c'était assez divisé les tâches, les rituels, et ce sont notamment les femmes qui s'occupent de tout ce qui est toutes les cires, ce sont pas les hommes. Donc ça, c'est un sujet qui est revenu beaucoup.
Oui, que le deuil, c'était le travail des femmes.
Ensuite, donc c'était chez Michaela. Là, on est allé chez Eric aux Aurores. Il nous avait un peu oublié, mais il a trouvé le temps de nous recevoir. Là, c'était super parce que ça parlait beaucoup. Il parle beaucoup de la couleur, de tout. C'était dur aussi de faire le tri parce que c'était passionnant tout ce qu'il mettait en place pour son apiculture et puis tout le rapport aux abeilles. Mais il y avait vraiment ce prisme de sélectionner ce qui se rapprochait quand même plus des cires de deuil.
Et après, on a rencontré chez lui Ruth Haber, qui est apicultrice à Baïgoury. Et avec elle, on a pu faire un atelier avec les enfants. On a ouvert les ruches et on est allé observer ce qui s'y passait. Et c'était génial. Et ça s'est très bien passé. Et après, on a fait des ateliers en RISO où ils ont illustré leur expérience. Comme la RISO, c'est quelque chose d'assez facile à comprendre et très très rapide. Du coup, c'est très facile même à 3 ans de faire des impressions. Donc c'est chouette ce que ça crée comme possibilité.
Angèle.
Et donc on est allé chez Angèle qui du coup nous a montré ses moules à gâteau, à chocolat, ses ustensiles. Et qui nous a raconté son rapport à la cire. Elle disait que donc elle faisait ça quand elle était adolescente parce qu'elle aidait sa mère et qu'elle détestait ça, que c'était très lourd, très difficile, que ça se cassait très facilement, que c'était fastidieux
et qu'elle avait mal au dos en faisant ça. Ouais. Et que tout le monde n'était pas doué, que sa mère elle le faisait très bien et que c'était plus facile pour elle. Ouais. Mais il lui reste peu des outils qui ont servi vraiment à filer la cire. Et c'était super intéressant. Elle nous parlait pendant tout l'entretien. Alors soit elle frottait la cire sur la table, soit la bougie, elle la grattait un peu parce qu'en fait, comme c'est fait par couche, ça permet de voir. Donc toi, qu'elle grattait la cire,
elle passait la cire sur la table pendant qu'elle parlait. C'était marrant.
Voilà, ce petit tampon, vous le retrouverez dans l'édition. Donc c'était assez intéressant entre le chocolat. Mais aussi, voilà, ça faisait vraiment partie, c'était sur leur enveloppe, dans les archives, des petites références.
Parce qu'elle nous a montré, du coup, toutes ces archives. Du coup, il y a les enveloppes qu'ils utilisaient, il y avait des recettes de madeleine de 1800 et quelques, que ses grands-parents avaient ramené avec eux. Donc, toutes les recettes de madeleine écrites à la plume. Bon, voilà, elle avait plein de beaux documents à partager.
Et après, encore grâce à Julie Lémon et à Chabir, on nous a dit qu'il y avait une église dans laquelle ça se pratiquait tous les dimanches encore. Moi, j'en avais pas entendu parler, ce qui maintenant me paraît un peu fou. Mais du coup, c'était à Mesqueta.
Ouais.
Et il fallait être une dizaine, je crois, pour faire la visite, parce qu'il faut une visite, bien sûr, parce qu'on va pas déranger les gens qui sont dans leur célébration. Et du coup, on a dit, on prend pour 10. On était toutes les deux, et elle était super sympa. On l'a eu pour nous tout seul.
Ouais. La visite est fournie avec un talo.
Oui.
On ne savait pas, mais du coup, on a mangé des talos d'abord. Et après, on est allé faire la visite.
Ça fait une belle transition entre Angèle et... Mais c'est vrai, en plus, là, c'est chronologique. Et je vous mets des petites photos, mais c'était assez... Et c'est des choses qu'on retrouve dans l'édition. C'est cette clé qui était gigantesque. Et puis, la porte, elle était déjà sculptée. C'était incroyable. Donc, on se doutait déjà que les argis aïolacs qu'on allait voir, vu la porte et tout ça, allait être assez fascinante.
Et donc, oui, donc dans l'église, devant chaque... devant chaque chaise. Donc, déjà, les chaises sont... Il y a les initiales qui sont clouées, il y avait des petits clous. Il y avait les planches avec les briquets, donc le petit anachronisme.
Oh, j'adore.
Et ils avaient laissé un pain pour montrer qu'à l'époque, ils faisaient aussi des offrandes, qu'ils offraient du pain. Mm-hmm. Et donc en fait, là, toutes les trappes qu'on voit, c'est des tombes.
Par famille.
Voilà, et après, il y en a une qu'ils ont l'autorisation de montrer, mais sinon, directement sous les tombes, il y avait les corps. Mmh. Et puis, ils ont arrêté parce qu'il y a eu une épidémie qui a décimé une grande partie de la population, et il y avait trop de morts à la fois. Et ça devenait irrespirable dans les églises. Donc, à partir de ce moment-là, il a été interdit de les enterrer à l'intérieur, et donc, ils ont fait les cimetières à l'extérieur. Mmh.
Du coup, là, c'était aussi intéressant. Ils ont une personne un peu dédiée dans la paroisse qui ils achètent un gros bloc, alors eux à Pampelune, de cire, enfin une grande bobine, voilà. Et il y a une personne qui est dédiée pour refaçonner dès qu'il y a besoin, parce que les planches sont familiales. Ensuite, on est allé, alors ça c'est dans le livre, il y a ces images, c'est pas un entretien, mais on allait rencontrer Jean Larrigaray.
Non, pas Jean. On est allé à Yuangui.
Ah, Yuangui, ok. Oui, mais c'était. J'ai envie de dire. Ah, pardon, je confonds parce que.
Larrigaray, c'est son film qu'on a montré.
Ah oui, pardon.
J'ai envie de dire. Et du coup, comme on allait présenter notre projet à Yuangui, on allait le rencontrer. C'était super parce qu'il avait de très belles cires à nous montrer.
Voilà. Qui, vous verrez, voilà, elles sont, c'est des images qui sont pas très, voilà, sexy, quoi. C'est pas très beau, mais dans l'édition, grâce à la couleur et tout ça, on l'a traité, elle rend hyper bien. Et voilà, pour le remercier aussi du temps, je trouve ça hyper beau de les intégrer dans le livre.
Et après, on allait voir la cabane de Chalbador, à Irepel, dans laquelle il y a des cires. Voilà. Ça faisait plus partie de la découverte culturelle en général.
Et ensuite, Sœur Françoise, quand on arrive, il y a plus de curieux, et je ne suis pas la seule à aller la rencontrer. Et une des règles de départ, ce n'est pas de photos d'elle. Oui, ça se comprend. Donc elle accepte un peu qu'on prenne des photos de la ciragerie, qui est très très belle. Et donc, au fur et à mesure, une fois elle m'avait glissé, bon, vous pourrez prendre une photo de moi. Alors, moi, j'ai pris ça très au sérieux, c'est-à-dire que moi je ne suis pas photographe et du coup j'ai invité un ami en me disant voilà c'est important pour moi et voilà elle a tout un savoir-faire et pour moi c'est important de participer aux archives et que ça pourrait servir à d'autres personnes. Et donc en amenant Charles, ça s'est super bien passé. Ils me disent oui. Alors Jennifer, il y a deux employés qui travaillent avec elle souvent. Jennifer, elle fait des photos aussi. Et en fait, vous allez voir, Jennifer, elle a un bagage d'art appliqué. Elle fait des photos incroyables et notamment pendant qu'elle file la cire, parce que c'est un moment où personne n'a le droit de rentrer dans toute la bâtisse, parce qu'elle doit se concentrer vraiment énormément, c'est très laborieux. Et puis, comme c'est voilà, des mètres, presque 100 mètres de fil, si on a un moment d'égarement, on peut un peu la craquer à un endroit et tout ça. Donc voilà, Charles avait le droit de venir, mais pas au moment de filer la cire. L'année dernière, malheureusement, elle m'a invitée à venir à ce moment-là, et puis je ne pouvais pas, donc j'espère que ça viendra peut-être. Et les photos de Jennifer sont magnifiques et on les a traitées différemment de celles de Charles et d'elle. Et voilà, ça c'est les photos de Jennifer. Donc moi ça faisait 3 ans que je l'ai tannée, j'en avais jamais entendu parler de ces photos. Et quand même, je suis restée bluffée.
Il y a le film aussi, on n'avait pas le droit de montrer le film, mais on avait le droit de montrer des captures d'écran, des images.
Et ça, c'est les photos de Charles qu'il a tout travaillé à l'argentique et tout ça, qu'il a développé voilà lui-même avec donc Jennifer. On voit un petit peu aussi, ils travaillent pas que la cire d'abeille, ils ont toutes les commandes aussi de cierges. Et voilà, moi, elles me touchent énormément. Elles sont pas toutes dans le livre, mais il y a ce portrait notamment qui m'émeut énormément parce que c'est vraiment elle. Elle a toujours un petit sourire, elle fait des petites blagues et en même temps, voilà, ils travaillent énormément. Hein, c'est impressionnant. Ils ont fait le choix de conserver la partie des cierges parce qu'il y avait les fromages aussi qui fonctionnaient très bien, mais parce que c'était vraiment de rendre service à la paroisse. C'était plus important pour eux que de faire du profit et tout ça. Donc voilà, c'est très fort.
Donc après, en juillet, il y a eu le temps justement d'échange avec le projet de Julie à Yuangui. Et ensuite, fin juillet, avant de commencer la résidence, on est allé à Mombolo, dans les Pyrénées-Orientales, pour faire la procession. Donc le rendez-vous, c'est à 7h du matin à l'église. Et après, on descend à Arles-sur-Tech. Parce qu'en fait, du coup, quand il y a eu la tempête, un berger de Mombolo a demandé aux 200 protecteurs de Arles-sur-Tech de les protéger, et ça a marché. Et donc, mais c'est quelque chose qui est hyper vieux, ça fait plusieurs siècles.
Ah oui,
et donc tous les ans, sans faute, ils descendent, il y a une procession qui descend de Mombolo jusqu'à Arles-sur-Tech. Et la cire est filée par Sœur Françoise.
Oui, voilà, c'est la Rodelia de Mombolo.
Et du coup, après... Non. Et non, et en fait, du coup, il y a une famille, chaque famille a un rôle à se codifier. Donc, il y a une des familles dont le rôle est de récupérer la cire de l'année précédente, d'en faire des tout petits, des versions miniatures qu'ils vont vendre pour financer la cire de l'année d'après. Donc là, il y a, en gros, la, celle qui était exposée, c'était la cire de 2023. Et sur l'image de droite, c'est la cire 2022 qui va servir à payer la cire de 2024.
Un peu comme toi et tes livres, les voilà, livres de l'année d'avant. Non, mais c'est vrai. Et c'est très chouette. Et on a découvert, donc pareil, ça on le lisait, mais on a découvert qu'il y a une famille de porteurs. Oui. Et ça, c'était quelque chose que j'avais pas lu. Ils ont, ouais, aussi une petite chanson. Et vous avez vu, il y a quand même un peu de la dentelle. Hein. C'est pas, voilà. J'étais ravie. Du coup, j'ai fini sur cette image-là pour un peu évoquer. Voilà. Forcément, les gens, ils arrivent beaucoup plus après la marche. Là, il y a beaucoup plus de gens, c'est beaucoup moins tôt et il y a moins de marches. Donc voilà, ça c'est ce temps de résidence d'à peu près une semaine, non un peu plus quand même qu'une semaine. Non, une semaine, voilà. Donc on était bien chargés. Et après, comme tu l'as dit, voilà, c'était une carte blanche. Donc moi j'avais tout mon passif que je vous ai un petit peu montré, de toutes ces recherches qui étaient encore très voilà, actives, tout ça. Toutes ces rencontres. Et c'était comment articuler ma pratique avec tous ces entretiens qui me dépassaient et que je trouvais beaucoup plus probablement pertinents. Et puis c'était le sujet de cette résidence aussi. Donc maintenant, ça me paraît totalement évident et limpide, mais c'était beaucoup de questionnements et de nœuds de cerveau. De, en fait, ma pratique, je ne l'ai pas présentée dans le livre, mais j'ai fait des petits textes introductifs qui raconte un peu les anecdotes. Je crois qu'on n'a pas parlé du talo, mais un peu des petites choses comme ça qui vous amènent dans la rencontre. Je parle des 3 heures avec Chabir qui pouvait plus, on voulait plus partir. Et ensuite, quand même, j'ai proposé. En fait, j'avais fait un entretien pendant ma résidence avec une étudiante. Donc, je crois que c'était 1 ou 2 ans avant. Un entretien qui n'était jamais sorti. Et en fait, j'avais pris beaucoup de temps à le rédiger. Et en fait, je trouvais ça assez intriguant et intéressant de surtout pas le remodifier, mais de le partager et qu'il soit un peu... je trouvais ça joli que ce soit le début de ce projet, quoi, un petit peu daté. Et donc, je lui ai proposé une petite carte blanche et elle a fait ce petit livret, donc qui est aussi trilingue. Et voilà, ça contextualise, mais les deux éditions sont indépendantes et il n'y a pas... voilà. Donc, voilà, ça, c'était un peu ma manière de quand même... ouais, contextualiser. Et donc après, bah, c'est tous ces entretiens, toutes ces paroles, donc beaucoup de réécoute, de recouper, de toutes les traductions. Et à côté, mon apport, peut-être plus évident, plus facile pour moi de me positionner, c'était de faire quand même cette grosse recherche iconographique, donc j'avais déjà une bonne base d'avant, d'aller une fois de plus regratter un petit peu le musée basque. Et donc vous avez plus l'habitude, voilà, d'envoyer à distance. Moi, je veux bien venir. Alors je suis venue, je me suis assise à côté de l'ordinateur et j'avais toute une liste de thématiques. J'aurais pu d'ailleurs la faire, qui m'intéressait d'évoquer, notamment par exemple l'annonce de la mort aux abeilles, qui est une tradition, voilà, très connue, qui revenait beaucoup dans les entretiens. Aussi la hiérarchisation à l'église entre les hommes et les femmes. Et les linceuls, dont on entend beaucoup parler, avec les broderies spécifiques ici, avec ce bleu qu'en plus on avait dans l'édition. Donc il y avait plein de choses comme ça, j'étais vraiment pas sûre de trouver hein, des images. Et en même temps, bah, on a réussi à illustrer la plupart de ces propos. Et en même temps, le fait d'être à côté et qu'on aille dans tous les petits dossiers, voir toutes les petites images. Par exemple, hop, j'étais accrochée par le mot pleureuse. Donc les pleureuses, ces femmes qui accompagnaient les cérémonies et qui soit étaient payées, mais qui pleurait énormément pour que les familles puissent être dans leur deuil de manière plus intime. Et il y avait des mouchoirs de pleureuses dans les collections. Donc ça, par exemple, c'était super parce que c'est la surprise de découvrir ça. Et donc ce livre, j'espère que... Enfin, après, c'était vraiment de mettre en regard ces images avec les textes. Et après, on est passé sur... J'espère que vous verrez la sueur et l'amour qu'il y a dans toute, parce que après c'est toute la partie invisible, quoi. Voilà. Sinon on a beaucoup de photos à vous montrer, mais là on prend pas beaucoup de photos, on est à fond. Je vous ai pas dit, mais Marie c'est la reine de la risographie. Elle est connue en France pour ses talents. Encore la semaine dernière avec quelqu'un. Ah ouais. Non mais pas... parce que normalement il y a des décalages d'impression que vous verrez jamais dans ce livre, parce que Marie elle a les yeux sur la page et ça. Donc il y a aussi une grande qualité. Et après, c'est toi le bébé que je te donne. Et quel bébé ? Parce qu'en fait, j'ai fait des choix qui... beaucoup de choix qui ont été beaucoup de travail. Alors, comme tu l'avais dit, il y avait cette importance de la langue basque. Et très tôt dans le projet, je t'avais proposé de faire un pliage, notamment, pour que le français et l'anglais soient cachés. Il m'importait, en fait, de mettre en anglais aussi, parce que le sujet funéraire, il est vraiment universel, le rapport de l'abeille au funéraire aussi. Et en fin de compte, j'avais aussi envie que ça traverse un peu plus que juste...
Oui, parce que voilà. C'était aussi... la reine d'Angleterre était décédée l'année d'avant. Et Anice Madariaga avait écrit un article qui commençait par... qui parlait du funéraire et à cette période de l'année, et qui parlait du fait que l'apiculteur royal était allé annoncer aux abeilles le décès de la reine. Voilà. Donc voilà, là, c'est l'espèce d'atelier temporaire que nous avons aux Aldudes, qu'on partage avec le comité des fêtes et la clique.
Oui, un matin, on s'est réveillé et c'était couvert d'alcool autour de nos...
De bouteilles d'alcool, parce qu'on l'a fait pendant les fêtes des Aldudes.
Du coup, il y avait mon petit ordi, ça c'est des photos qu'on n'a pas mises, mais j'étais au milieu de la vodka et la manzana.
Donc là, c'est sur les photos, donc c'est les outils qu'on utilise pour imprimer. Donc il y a toute une série de tests qui sont faits pour que la technique soit au service de la photo et du visuel. Donc on a toute une phase où on fait des choix esthétiques et... Donc on fait des tests du calibrage couleur.
Avec une très très grande rigueur, c'est-à-dire qu'on a imprimé, il y a plus de 120 images, et on a imprimé chaque image au format.
Et en petit aussi quand même.
Et en petit. Et tout ça, mais pour que chaque image soit validée par nous, que c'était comme ça qu'elle serait tirée, que peut-être fallait tirer un peu plus de bleu, que peut-être fallait plus de rose. Il y a des images avec plus de passages, notamment les portraits. Et ça, voilà, c'est parce que c'est toi qu'on est aussi rigoureux et qu'on prend le temps sur ces étapes de travail, quoi.
Donc là, on a mélangé la bonne couleur par rapport au... Parce qu'il y a des encres spéciales, mais on n'a pas les moyens. Donc du coup, on a fabriqué nous-mêmes pour que ça corresponde à la couleur.
Là, c'est vous montrer un peu toutes les coulisses qui amènent à ce livre. Ouais.
Et voilà, donc là, il y a des tests d'impression, il y a des petits hasards sur la page de droite, de superposition qui n'étaient pas... Voilà.
Et alors, à partir de là, on mangeait très bien. On arrêtait de sauter les repas, on avait des amis qui nous faisaient à manger, on a des amis qui venaient nous aider. Par contre, c'était le sommeil qui a un petit peu sauté, là, pour quelques semaines. Parce que là, on a vraiment imprimé énormément. Et donc là, on s'est beaucoup amusé, tu m'as beaucoup aidé là-dessus. On aperçoit au milieu... Voilà, il y a plein de traitements graphiques un petit peu pour rythmer, pour pas que ces images soient trop plates, donc des détours. Toi, t'as fait un travail de finesse incroyable sur une jupe d'une image pour ramener du bleu dans la jupe pour qu'on lise le plissé. Enfin, voilà, là c'est du plaisir, mais peut-être un petit peu aussi une espèce de fanatisme de l'image.
Donc voilà, des tests d'impression.
Alors là, le rose est pas bon parce qu'il est rose fluo, hein, normalement. Ouais. C'est le traitement, ouais. Voilà. Alors bien sûr, j'amène du papier opaque, donc tu peux plus checker tes calages recto-verso, t'es obligé de faire avec une punaise. Donc moi, je la regardais, je pouvais pas trop aider, quoi, c'était trop technique. Et t'avais des grilles, parce que donc on est sur 40 pages recto-verso, avec plus ou moins à chaque fois 3 passages presque, ou 2 passages de couleurs. Pour la réimpression, je vais essayer aussi d'un peu optimiser pour t'alléger, que ce soit plus justifié.
Et on a fait un test pour la couverture. Ça, c'est Sœur Françoise, elle nous avait confié la filière, qui sert donc à filer. Donc en fait, le fil, il rentre par le plus petit trou. Et donc elle le passe dans la cire, puis après il repasse de plus en plus gros, et jusqu'à atteindre 8 mm d'épaisseur.
Oui, ici, ouais, c'est 8.
Donc on avait fait un test de couverture où on avait embossé la filière. Bon, au final, ça a été un peu un échec.
Bah en fait ça marchait, où on avait des petits froissés. Enfin moi je trouvais ça tellement beau, déjà la confiance, parce que bon, déjà en termes de valeur, hein, c'est du cuivre, donc voilà. Et puis elle me laisse un film avec toutes les explications, elle me prête cet outil qui a probablement 200 ans. Enfin c'était très important, on avait envie que ça marche, mais la risographie faisait qu'on était sur un papier très fin parce qu'on pouvait pas aller sur du très épais. Et j'ai fait 200 squats, hein, parce que c'était les 200 couvertures, une par une. Et en plus, chez des habitants...
Habitants des Aldudes qui ont une presse, Daniel et Runcal, qui font de la gravure et du coup qui nous ont laissé utiliser leur presse pendant une journée.
Et après, on était tous dans le salon de Marie, donc je sais pas, on devait être sept ou à un moment. Et tous autour, personne n'osait trop rien dire, mais bon, cette couverture, elle allait pas du tout avec le reste de l'investissement qu'il y avait, mais c'était tellement triste de d'arriver à cette conclusion. Et heureusement qu'on était beaucoup, qu'on avait le regard des amis. Et du coup, une petite idée qui trottait, c'était la gravure laser. Aussi un peu cette idée de faire, voilà, c'est une recherche qui s'ancre dans actuellement, quoi. Et donc là, c'est un petit pas en Creuse. Il y a un Fab Lab à une heure de chez moi. Et la gravure laser, donc ça brûle un petit peu la couche dessus du papier. Et on a fait pas mal de tests pareil. Et on s'attendait pas, parfois ça rendait blanc au lieu de faire brûler. Et l'idée de brûler correspondait bien sûr à la bougie. Et là, en plus, ils nous l'ont fait gratuit. Enfin, on a aussi beaucoup de gens qui
nous aident, oui, parce que le budget est assez restreint.
Ouais.
Voilà. Après, on a eu un problème sur la reliure parce que on avait acheté une machine qui. Bon, bref, c'était un peu technique, mais ça marchait pas avec ce qu'on avait. Du coup, on a appelé plusieurs imprimeries. On a réussi à négocier le massicotage. C'est moi qui le fais chez des imprimeurs. Mais par contre, la reliure, on n'a pas pu la faire et on a mis un mois et demi, voire deux mois, à réussir à trouver en fait quelque chose qui était juste pas très loin de chez nous en Creuse.
Mais surtout, en fait, ce que tu dis pas, mais c'est parce que moi, je voulais pas faire du plastique.
Oui,
mais si on avait fait du plastique, alors là, on avait la solution, tout allait bien. Mais le livre étant très épais, le diamètre, le fait que, pour moi, c'était, j'étais un petit peu radicale, mais c'était inenvisageable qu'on passe tout un livre à expliquer toute la beauté de la cire, de matériaux vivants, et avoir une reliure en plastique, ça. Mais et c'est un peu oui ce que je disais tout à l'heure. En fait, voilà, dans ces projets, on est à la limite entre l'amitié et le professionnel et tout ça. Mais il y a des moments où, voilà, pour toi, c'était aussi fallait que tu me suives, tu me suivais, mais c'est pas facile. Et t'aurais pu aussi. Donc il y a des moments où c'est très intense le projet et c'est pas non plus toujours évident et limpide comme ça a l'air. Et là, elle m'a suivie pendant voilà. Toi, tu dis un mois et demi, deux mois. Je crois que ça a mis trois mois à ce qu'on trouve une solution. C'était, mais ça vaut la peine et je pense que ça se justifie bien. Enfin, j'espère que ça valait.
Mais oui. Et puis du coup, quand on trouve la solution, c'est super.
Mais pour moi, c'est important qu'on vous parle de ça. Enfin, j'espère que ça vous intéresse. Mais en fait, c'est aussi vraiment les coulisses de tout quoi.
Et puis il a fallu plier les pages à la main parce que la riso s'attache et du coup, on peut pas forcément le confier à des imprimeurs de faire passer ses encres dans les machines, parce que ça va leur salir les machines. En plus, c'est pas précis. Moi, je veux que ce soit précis. Du coup, j'ai tout plié à la main.
Ouais.
Et après, on a fait la reliure. Enfin, on a tout assemblé ensuite nous-mêmes dans le salon d'Aglaé.
Donc, on a fait 200 éditions. Il y a une quarantaine de pages. Chacune nécessite deux plis. Et je pense que c'est toi qui as fait 98%
du pli.
Voilà. Ouais. Donc la condition sur la réimpression de Marie, c'était Aglaé, tu me trouves une solution pour les plis. C'est inenvisageable. Voilà. Donc on va peut-être demander largement pour faire les plis.
Et voilà. Et puis.
Alors moi j'aime bien montrer ça parce qu'au début c'était pas efficace, on se cassait le dos complet, c'était pas du tout viable. Donc après je monte la table bien, voilà, bien aménagée, un circuit. Mais ça c'est la nuit dans mon appartement, voilà, c'est les. Mais bon là ça commence à être du plaisir, hein. Parce
et
que
voilà.
Ça s'aboutit. Et après je mets. Non attends, parce que je mets quelques images, mais après donc après je remontre un petit peu, on retrouve le tampon. Et là aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est tout le fichier sur donc le logiciel InDesign. Il est hyper complexe parce que en fait, je me suis fait plaisir, mais c'était un petit casse-tête. C'est tous ces plis. À chaque fois, fallait que ça fonctionne un peu dans les trois manières. Donc ouvert avec le recto et comment ça cohabitait. Enfin, je sais pas si vous arrivez à voir, mais donc à chaque fois, j'avais mes petites pages que je baladais. Ouais, là ça marche. Alors là je recoupe, là je mets en miroir et tout ça. Et le but, c'est d'avoir voilà plein de manières de découvrir des petites surprises quand on ouvre à l'intérieur ou tout ça. Et après, bah, tout ce que je vous expliquais d'être au service des textes. Donc là, par exemple, Shabir nous explique que les argisayolak sont de forme pas anthropomorphe.
Anthropomorphe.
Ah, si, c'est ça. Alors, oui. Ok. Et du coup, j'ai trouvé. Pareil, on a eu des super images d'archives de Chantal Mou. Et donc, c'était trouver celle qui était le plus comme ça. Après, on parle du. Moi, les paniers m'ont toujours intéressée. Je me suis toujours dit, ça doit être des paniers particuliers. Et malheureusement, tout le monde me dit non, anglais, c'était vraiment les paniers. Mais du coup, j'avais une image dans les archives du musée basque, une image iPhone que j'avais prise, mais qu'on a retravaillée. Et ensuite, les ornements d'Argis Ayolac, ils nous racontent que c'est que c'est les mêmes ornements.
Ça fait partie d'un vocabulaire graphique d'ébénisterie en général au Pays basque.
Que le mobilier. Donc là, je me suis un peu amusée sur ces images-là. Là, pareil, donc c'est la cire qui est présentée dans l'expo permanente, qu'on a travaillée en gris sur papier noir. Donc là, il y a un traitement aussi un peu différent. Et ouais, toutes les images peintes, on les a traitées en bichromie gris et bleu. Donc, ce qui est assez chouette, c'est aussi, je pense, et que j'espère même pour les équipes du musée qui connaissent, par exemple, ces images, c'est de les lire vraiment différemment, quoi. Ouais, on s'est fait plaisir là-dessus, c'était assez chouette. Et là, oui, bon, on s'amusait à détourer un petit peu.
Oui, détourer pour faire ressortir les cires.
Là, voir qu'une photo, une fois de plus, une photo iPhone, il y a de tout, hein, mais qui est pas hyper intéressante, bah, moi, j'espère, mais on a fait ressortir le jaune à fond pour que quand on l'ait, on a un petit bonbon. Voilà encore une image traitée iconographique. Celle-là, c'était une qui illustrait justement donc, les hommes un peu sur les cursives dans certaines églises. C'est mon interprétation, hein. Est-ce que c'est tout à fait ça? Les images de Charles, donc voilà, par exemple, ça fait partie, c'est une image portrait que je recoupe, que je trouve sublime. Et puis, voilà.
Et puis, du coup, le but des résidences, outre artistiquement, je trouve que ça a été un succès, personnellement, en tout cas, je suis contente. Et après, en fait, ce qui est hyper important, c'est l'expérience humaine et les échanges. Et ça a été atteint puissance 1000. Donc ça, c'était super. Où, du coup, t'as laissé un souvenir incroyable dans la vallée des Aldudes et dans tous les endroits où on est allé. Où, du coup, ça a été humainement super. Parce que quand ça se passe pas bien, quand on sent que la personne invitée n'est pas très intéressée finalement par la découverte avec... Enfin, humainement, on n'est pas si intéressé que ça. C'est quand même un peu frustrant. Alors que voilà, là, c'était vraiment génial. Donc, bon, ça a été hyper agréable.
Non, c'est régalé. Et puis, c'est vrai que depuis le tout début de ce projet, moi, forcément, j'ai ce rapport, je viens de Reims. Voilà, mea culpa, je viens du nord-est, de Champagne, voilà. Et c'est toujours été un questionnement sur comment je me positionne en tant qu'étrangère sur cet objet. Maintenant, donc ça doit faire 4 ans, je suis peut-être un peu plus en paix là-dessus parce que la réception, elle est... en fait, les gens, quand on partage un amour de ça, de l'histoire, du patrimoine et tout ça, en fait, ils sont hyper bienveillants, quoi. Quand j'ai présenté à Marseille, il y a eu la visite de quelqu'un qui était basque, donc il savait tout de suite. Et c'était un peu mon appréhension, c'était le début du projet. Et il était hyper... c'est pas élogieux ni rien, mais il trouvait ça vraiment intéressant aussi. Donc j'espère, faut toujours se poser la question, mais ce livre-là aussi... ouais, c'est me mettre un petit peu au service, quoi. En tant que graphiste plus qu'artiste, voilà, ça a été cette casquette-là, et je me suis plus retrouvée. Et qu'est-ce que je veux dire ? Non, et puis, en fait, ce qui a été fort, et je te remercie, je la remercie tout le temps, mais c'est que, en fait, je pense que ce livre a vraiment légitimé, on est là ce soir, hein, c'est pas rien, mais parce que j'avais toqué un peu plus, mais enfin, les gens, ils voient quelque chose. Et c'est pas, une pièce textile et tout ça, et je pense que. Tout peut se jouer, il y a des endroits différents, il y a des choses qui intéressent plus ou moins. Mais le livre, il a été vendu, il a été épuisé très vite, ce qui était... je voulais qu'on parle même du prix. On a fait le choix de ce prix à 28 euros, qui, comme vous voyez, le travail... alors ça, c'est toi qui as toute la partie budget et tout ça, hein, mais le but, c'était que ce soit pas juste un livre pour... des artistes ou des gens qui aiment la résidence, enfin pas que, hein, il y en a bien sûr, c'est ça, mais c'était que quelqu'un qui puisse rencontrer ce livre, en plus il a été par exemple dans la bibliothèque ici, que ce soit un prix abordable, donc ça nous tenait à cœur.
Du coup, grâce à ce projet et le fait qu'on ait rencontré Julie de COP Pays Basque, ça va donner suite ensuite à une expo à Pampelune en novembre 2025. Et on va être du coup obligé de le réimprimer.
Obligé.
Donc on prend des précommandes ce soir. Et donc ça sera imprimé en juillet 2025. On en fait 300. Et il sera disponible ensuite, il sera livré en novembre.
Voilà. Et c'est vrai que comme tout est un peu à l'arrache, vraiment dans une temporalité très courte de résidence, là je fais la bonne élève pour que... Donc par exemple, dans 2 semaines, je vais commencer à aller graver les couvertures. C'est pour automne l'année prochaine, mais pour me rattraper, pour les... je vais essayer d'être un peu plus organisée. J'ai plus le temps et puis ça va permettre... on va passer l'anglais en espagnol parce que du coup... parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que la recherche au début, je l'ai vraiment centrée du côté nord des Pyrénées. Ça m'emportait aussi de définir un territoire. Et aussi mes compétences en espagnol, probablement, m'ont limité. Et grâce à toi, j'ai passé les Pyrénées. Et du coup, je commençais à aller chercher aussi même un petit peu vers Madrid et tout ça. Et avec Pampelune et tout, il y a toute cette ouverture. Les gens avec qui on parle, l'anglais finalement, il y a eu quelques personnes, mais c'est resté assez anecdotique. Donc il va y avoir un petit peu des petites modifications de papier, de choses comme ça. Mais voilà.
Remercie donc toute l'équipe, Régine, Émilie, Amaya et Sabine Cazeneuve de nous accueillir ce soir. Et merci à vous d'être venus.
Ça me touche beaucoup. Merci.
De longs fils de cire entortillés, présentation du livre Filurikatuak Siren Shiryo Luce Batsu, consacré au cire de deuil et réalisé dans le cadre d'une résidence artistique aux Aldudes en 2023. Vous venez d'entendre de larges extraits de l'intervention de Marie Campistron et Aglaé Miguel. Intervention enregistrée le 24 octobre 2024 au Musée Basque de l'Histoire de Bayonne et nous vous proposons d'entendre l'intervention de Sabine Cazeneuve à la fin de la conférence. Sabine Cazeneuve, conservatrice et directrice du Musée Basque de l'Histoire de Bayonne.
Alors moi je dois dire que j'ai acheté ce livre plusieurs fois, donc on va vous en commander quelques autres quand même, histoire d'encourager la démarche. Moi je suis restée un peu sur ma faim, mais parce que je suis historienne et pas sociologue. Mais en même temps, j'ai été prof pendant très longtemps et je sais ce que c'est qu'un travail d'artiste. Donc c'est un très beau travail d'artiste et c'est un très beau travail d'impression et ça c'est formidable. Moi, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez dit ce soir, c'est tout l'arrière-plan social, sociétal. Et je dirais que là où je reste sur ma faim, et je voulais vous parler des pratiques qui ont disparu, parce que moi j'ai un âge maintenant où certaines de ces pratiques, je les ai connues, actives. Notre grande angoisse, nous, au musée, c'est de voir disparaître ces pratiques. Donc c'est hyper important, effectivement, de les colporter au sens propre pour qu'elle continue à vivre d'une manière ou d'une autre, parce que ce sont des pratiques dont certains pensent peut-être qu'elles n'étaient que religieuses et que c'est fondé qu'elles disparaissent. Après, ça dépend des opinions que l'on peut avoir, mais elles n'étaient pas que religieuses. C'est des pratiques qui sont fondées dans un animisme et dans un culte des morts qui est et de la vie finalement, parce que le culte des morts, c'est le culte de la vie, c'est une façon de faire vivre les gens encore, encore et encore. Et donc moi c'est ça qui m'intéresse et j'ai envie de travailler là-dessus. Je voulais vous dire que sur ces pratiques artisanales pratiquées par les moniales, on a perdu 99,99% des choses qui se fabriquaient ici dans tous les couvents de France et d'Europe et probablement du monde, mais puisque un peu comme dans les prisons, les moniales devaient gagner leur vie et donc on fabriquait pas que de la bière ou du génépi dans les monastères d'hommes, on fabriquait des alcools, mais dans les monastères de femmes, on fabriquait des choses qui étaient liées au rituel. C'est vraiment dommage. Il y a une autre pratique qui était magnifique et qui a complètement disparu. On n'en a même pas dans les collections. D'ailleurs, je lance un appel. Je ne vais pas aller la piquer sur la tombe où je l'ai repérée, à Mauléon, il y avait les moniales qui fabriquaient les couronnes de perles, et elles n'étaient pas en plastique à l'époque, elles étaient en perles de verre. Elles faisaient des fleurs extrêmement élaborées. Je vais vous dire, le seul endroit où vous pouvez encore en voir, je pense, c'est à Sarres. Et elles sont très très abîmées, et quand elles ont été mises à l'abri, parce qu'on faisait des abris pour ces couronnes, parce qu'elles étaient tellement fragiles que... Bon, alors il y en a qui ont 100 ans, Et donc on n'en a même pas dans les collections, comme les fleurs en porcelaine qui étaient aussi fabriquées dans les monastères. et qui ornait aussi. Elle fabriquait aussi les fleurs des ostensoirs des processions, mais elle fabriquait aussi les fleurs des coiffes des koas. Elle fabriquait avec du métal argenté, des fils de perles. Enfin, c'était extraordinaire. Et ça, avec les dernières moniales, parce que ce genre de pratique, il y a, si vous voulez, ce genre de pratique, il y a 30 ans ou 40 ans, l'artisanat était complètement has-been et on n'envoyait pas les enfants faire maître de Penningen ou les arts déco, et donc du coup ils revenaient pas au Pays Basque avec ce genre de pratiques comme celles que vous pouvez avoir, qui permettent de faire ressortir ces savoir-faire quand ils n'ont pas encore disparu. Eh ben, elles peuvent effectivement peut-être les réactiver. Je pense pas qu'on exigera d'elle qu'elle prenne le voile pour maintenir la pratique. Franchement, hein, il y a beaucoup de sécularisation, y compris dans les monastères. Ils sont bien obligés. Hein. Enfin, je veux dire, il y a les pastilles de d'Isigny, par exemple, qui sont fabriquées par des moniales au départ. Bon, ben, aujourd'hui, c'est un petit artisanat, si vous voulez. Donc, après, excusez-moi, je parle beaucoup, mais ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que je pense que j'ai été vraiment passée à côté. Donc, je suis passée à côté. Et pourtant, je l'ai acheté 3 fois et je l'ai offert. Mais je suis passée à côté de ce qu'il y a derrière. Voilà. Et vous, peut-être aussi un peu. Mais c'est pour ça qu'il faut continuer. Voilà. C'est pour ça qu'il faut continuer. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est très utile. Et si on peut vous aider, on continuera à vous aider. Par exemple, dans la recherche des pratiques qu'il y a derrière ça, il y a des foultitudes de choses à lire. Alors, évidemment, pendant que vous faites des ouvrages faits à la main, vous lisez peut-être pas, hein, mais je pense qu'il faut faire les deux.
Quand même.
Voilà. Non, mais voilà. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans votre travail, là, c'est aussi l'arrière-plan de recherche qu'il peut y avoir derrière et dans lequel on peut vous aider sans doute.
Vous venez d'entendre la directrice et conservatrice du Musée basque de l'histoire de Bayonne, Sabine Cazenave, à la fin donc de cette présentation du livre « Filulicatuak silen chilio luce batsu » de long fil de cire entortillé avec Marie Campistron et Aglaé Miguel. Intervention enregistrée au Musée basque de l'histoire de Bayonne le 24 octobre 2024.